Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toi qui écoute La Causerie du coup au 102.2 sur Radio-Canu.org un dimanche à 22h parce que tu t'es dit tiens c'est dimanche et si j'écoutais l'émission que j'aime bien sur la radio et tu es venu nous écouter et on t'en remercie. Et ce soir à la technique il y a Clara.
Bonsoir.
Et dans les studios il y a Jean-Yves.
Bonsoir et Fab. Donc.
Et bonsoir. Et ce soir on va vous faire une émission très 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 remonté et un tout petit peu qui va parler d'histoire. Et d'ailleurs, ça va commencer par toi Jean-Yves. Raconte-moi un peu la France.
Effectivement. Alors, pour recontextualiser tout ça, hein, vous savez peut-être que dans le paysage local, hein, nous avons la chance de compter un certain Laurent Wauquiez, qui était président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en 2024, avant de retourner à l'Assemblée nationale en septembre. Il était aussi remplacé par un certain Fabrice Pannekoek, qui est lui-même aussi LR et qui a été évidemment adoubé par Wauquiez. Parce que c'est ça, la démocratie représentative.
Ouais, et puis qui n'est pas très très à gauche.
Ah non,
il serait même très très à droite DLR.
Bah dis-toi que s'il a doublé par Wauquiez, j'ai envie de te dire, c'est que c'est une pâle copie quoi.
Bah voilà, c'est ça.
Alors, dans La Causerie, hein, on avait déjà parlé de Laurent Wauquiez et de son adoration de la sécurité, hein, version surveillance partout. On a aussi parlé de sa haine des pauvres, des chômeurs, des chômeuses. Nous avions déjà aussi abordé ses amitiés manif pour tous. C'est un petit...
Mais c'est un combo, ça va avec.
Je trouve plus le mot, pardon.
Tu fais des guillemets avec tes doigts, qu'est-ce que tu voulais dire?
Je sais plus, je l'ai pas
le mot. Léonasme?
Non, du tout, mais bref, c'est pas grave. Une appellation, quoi. Une appellation d'origine contrôlée.
Ah
quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà. On a aussi causé de son amour de la religion. Catholique, bien sûr. Avec ses petits santons en fin d'année dans le hall de l'hôtel de région à Lyon. Parce que c'est ça aussi, la démocratie représentative.
Et laïque, a priori.
Et laïque, évidemment. ou encore, son goût. Et là, vraiment, le goût, le palais.
Des lentilles vertes du puits.
Pas que. Bon. Ou alors, ça fait cher. Parce qu'on avait déjà parlé de ces repas qu'il organise entre amis, en tout cas, entre personnes importantes, économiquement parlant, évidemment. Ou un repas qui représente à peu près 1000 euros par tête. Autant dire, il y avait beaucoup de lentilles.
ils en ont bouffé à la tonne, quoi, de la lentille.
Ah ouais, c'est ça. On ne prend pas compte du prix de la lentille verte du puits. Mais c'est cher, hein, quand même. Hein.
Et donc, ce soir, je me suis dit, tiens, je vais vous causer de son amour de la France. Attention, pas la petite histoire de France. Non, la grande France et son roman national. Bref, je vais vous causer de son patriotisme. Oui, parce que travail, famille... ça va rarement sans patrie, quoi.
Bah oui.
Et ça forme donc la Sainte Trinité de tous les réacs, après le Ave Jésus, Marie-Joseph, tout ça. Et Laurent Wauquiez, il en est quand même de toute cette petite réaction, de ce petit paysage réactionnaire français. Et donc son patriotisme, il passe... Oui, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, Laurent Wauquiez, quand même.
Ah, Lolo, il n'est pas connu pour ça.
Non. ça passe donc par son soutien à un spectacle nommé « Raconte-moi la France ».
Oh.
Avec des petits trémolos dans la voix, j'ai envie de faire.
Ça sent le Puy du Fou.
N'allons pas trop vite. Alors, ce spectacle hein, qui ambitionne de raconter 3000 ans d'histoire de France en 2 heures.
Oh, il bah, faut aller vite. Hein.
Parce que, oui, et puis déjà 3000 ans d'histoire de France. Il ouais, y a un truc qui cloche, que je crois pas qu'il y a 3000 ans la France existait.
Non, fait. Mais ça, c'est. Alors, ça, c'est. D'ailleurs, c'est très marquant.
Mais oui.
Et c'est un marqueur assez fabuleux. Parce que quand on commence à vous dire il y a 3000 ans, il y avait la France, il y a un problème.
Oui.
Bah, parce mais que ça n'existe pas.
Non,
de la
non,
France, il y a 3000 ans.
On sait que je crois que c'était le duché de Savoie. Non,
ouais.
C'est un duché. Est rentré dans le giron de la France il y a quelques centaines d'années, 200, 300 ans, je crois.
Oui, tout à fait. Puis quand ces gens oublient que Franc, qui a donné France, c'est en fait une tribu allemande qui s'est installée en France. Donc voilà. Enfin, allemande germanique, parce qu'il n'y avait pas l'Allemagne non plus à l'époque.
Oui.
Donc voilà. Donc rien que quand on vous dit il y a 3000 ans la France, c'est un petit peu embêtant.
Ben bah ouais.
Voilà.
Donc je continue hein, sur ce spectacle. Fort motivant sur donc ces 3000 ans d'histoire en deux 3000 ans d'histoire de France en 2 heures hein, sur fond de mise en avant quand même du roman national en mettant bien en avant dans sa communication certaines figures telles que Vercingétorix.
Oh, ils nous refont le coup de Vercingétorix.
Jeanne d'Arc.
Oh Jeanne.
Louis XIV ou Napoléon.
Oh bah des gens bien dis donc.
Des gens vraiment.
Alors pour les deux premiers on rappelle quand même que c'est un peu des mythes hein, et que tout ce qu'on raconte sur eux est à peu près faux. Et pour les deux derniers on va quand même rappeler que c'était deux tyrans parce que c'est bien de s'en rappeler quand même.
Qu'est-ce que serait la France sans ces tyrans? Je vous le demande monsieur. Alors je te rejoins sur le Puy du Fou parce que justement là on parle vraiment d'un spectacle à la Puy du Fou. Hein, cet autre phare réactionnaire du spectacle. Le vivant, vous en voulez, et ben allez-y parce que vraiment faut pas y aller. Donc c'est une centaine d'artistes, hein, 3000 costumes et accessoires, des chevaux, des cascadeurs, une structure animée de 30 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Et avec ça, je vous mets quoi?
Bah des petits sautés aux lentilles.
Ça c'est pour le menu.
Ah pardon.
Alors le tout hein, est accompagné d'une bande son enregistrée par l'orchestre symphonique de Prague. C'est marrant quand même. Non mais je me suis fait la remarque quand même.
Mais pourquoi Prague?
Mais c'est...
Parce que on a enfin. Alors, peut-être qu'à Lyon ils ont refusé hein, parce qu'ils ont pu se dire non pas nous.
C'est ce que ouais. Je me suis dit. Je me suis dit c'est quand même marrant pour tous ces chevaliers blancs de du bleu blanc rouge et tout ça d'aller enregistrer
à Prague.
Et moi je m'en fous. Hein.
Alors après c'est un des plus grands orchestres d'Europe, c'est vrai.
Voilà.
Il est très haut de gamme, c'est vrai aussi. Tout le monde le reconnaît. Mais par contre c'est étrange parce que bon dans la région il y a quand même plusieurs orchestres symphoniques.
Ah bah c'est à dire que quand même pour ceux qui se branlent sur l'image de la France. Trois fois par jour, j'ai envie de te dire, c'est quand même incohérent
ouais.
De ne pas.
Bon,
avoir...
Après, j'ai rien contre l'orchestre de Prague.
Mais moi non plus.
Ils font des super CD de musique de film.
Ah non, mais qu'on soit bien clair, moi non plus.
Bah oui.
Mais dans leur logiciel politique,
c'est
on
étrange.
Peut se dire, tiens, c'est marrant. Mais en même temps, je crois que c'est le RN qui fait éditer ces trucs dans des pays aussi, Europe même, je crois. Enfin,
ouais, bah ouais,
donc c'est marrant, ils ont le patriotisme sélectif. Pourtant, c'est hausse. Fan de la du patriotisme. Enfin bon, on n'est pas une incohérence près. Et donc, au-delà de l'orchestre symphonique, nous avons aussi une narration de l'acteur André Dussolier et un final, tenez-vous bien, spécialement créé pour l'occasion par Vianney. Il est jamais loin quand il y a du patriotisme ou de la religion.
Je te jure, quand t'as dit Vianney, j'y croyais pas. Et Vianney, vraiment.
Ouais, mais en même temps, je crois que c'est lui qui vient d'une famille militaire, donc je pense que
ouais, mais
ça
alors,
doit marquer, en fait. Non, mais c'est terrible. Hein,
moi, je vais dire un truc, c'est con de voir les acteurs vieillir. C'est ce qu'on dit souvent.
Ah, oui.
Parce que Dussolier, c'est quand même
et
quelqu'un.
Pas que les acteurs.
Ouais, enfin, un peu tout le monde. Mais Dussolier, c'est quelqu'un qui avait quand même une carrière très belle au cinéma, machin, qui se retrouve. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on le retrouve à faire de la narration de trucs mais totalement dégueulasses, totalement à côté de la plaque et c'est fou quoi. Alors parce que il ne manque pas d'argent, je pense Dussolier, faut pas déconner.
On sait pas.
Ou peut-être, mais en fait c'est ça qui est fou, c'est soit il croit à ces conneries là et alors ce sera encore plus décevant, soit vraiment c'est nul quoi parce que enfin il y a mieux pour finir une carrière quoi. Enfin,
ah,
voilà.
Ouais, mais
bon
c'est...
après Vianney c'est Vianney mais.
Oui mais tu voilà enfin bref tu n'écouteras plus pareil. J'en sais rien.
Qui ça Vianney ou Dussolier? Je n'écoute pas Vianney.
J'en sais rien. Enfin bref que du beau monde hein, n'est-ce pas? Donc le coût hein, total de ce formidable spectacle, on parle quand même d'un budget de 9 millions d'euros et la production hein, de Raconte-moi la France assure que c'est 100% financé par des fonds privés et remboursé par la billetterie. D'ailleurs, la même production hein, reconnaît que c'est un pari risqué. Alors, privé, bon, bah, c'est ce qui est dit. Hein, parce qu'en fait, la vérité est tout autre dans le sens où la région a financé indirectement le spectacle. Et en fait, c'est ce que Rue 89 Lyon révélait en septembre, à savoir que la collectivité a noué en juillet 2024 des contrats, je cite, d'achat d'espace promotionnel avec la société de production du spectacle, donc raconte-moi la France là, pour un montant de 444 000 euros. Je suis pas habitué à délire des chiffres aussi haut.
C'est quelques centaines de fois ton salaire. Arrête de te plaindre.
Donc 444 991 euros et 18 centimes. Les 18 centimes sont importants.
Bah, ça paye Vianney.
Bref, en contrepartie, la région, elle a notamment obtenu que les premières dates de cette tournée nationale aient lieu où ? Dans la région, évidemment.
Bah, oui.
En commençant par Clermont-Ferrand, puis à Lyon. Et alors à Clermont-Ferrand, je ne me suis pas noté le truc, mais c'est sur pas loin du site, là où ils veulent instaurer un nouveau parc à thème sur les Gaulois. Mm-hmm. Suivez mon regard.
Un parc Astérix ? Ah non, un vrai truc où on réécrit l'histoire,
oui.
On fait croire qu'Alésia c'était là, que Vercingétorix historique s'y ressemblait à Napoléon III, enfin tout ça quoi.
Un puits du fou régional quoi.
Ah ouais,
je veux dire, réécrivons l'histoire.
On a de la chance quand même.
Ah bah on a beaucoup de chance.
Oh là,
et alors tout ça, c'est passé par un marché public, sans publicité ni mise en concurrence.
On faudrait pas s'emmerder quand
même. Non, quand même. Et le média lyonnais, il a pu consulter justement cet appel d'offres lancé par la région qui était intitulé Achat d'espace promotionnel sur le spectacle Raconte-moi la France et prestations de communication associée. Résultat, un seul lauréat. Qui ? La société Raconte-moi SAS, productrice de Raconte-moi la France.
Ah, et quand ça, même, c'est le hasard.
Et ben, c'est ce que m'étais noté. Le hasard de la vie, et ben, c'est quand même formidable. Et quand on voit le nombre de fois où le hasard agit en politique, on peut se dire vraiment, c'est un milieu où il faut être si on veut rencontrer le hasard. Pardon, je ris beaucoup, mais parce que
ça nous énerve.
Parce que oui, en fait. Enfin, ce qui m'énerve le plus, je crois, c'est que les gens continuent de rester derrière ça et de soutenir ça, ou en tout cas de balayer ça d'un revers de main, quoi. Enfin, bref.
Donc, si je résume ce que tu dis depuis tout à l'heure, on a une société qui nous vend un spectacle façon Fuite du Fou, qui réécrit l'histoire de France en 2 heures, 3000 ans d'histoire de France en 2 heures, pour nous expliquer que eux, c'est tout payé par de l'argent privé, mais qui a quand même candidaté elle-même pour avoir de l'argent de la région à hauteur de plus de 400 000 euros.
Pour
faire sa propre autopromotion.
Oui, c'est à peu près ça que je te dis. Oui.
Ah ouais. Et ça, c'est normal.
Ben oui.
D'accord.
Je vois pas ce qui te. Je vois pas. Non, parce que quand même, c'était vraiment pas mal déjà. Mais le 10 octobre, nouvelle info que Rue 89 Lyon nous annonce, c'est que la dépense allait encore augmenter. Puisque bon, 444 000, c'était pas assez. Et la dépense, l'ardoise, elle s'est. Enfin, c'est pas l'ardoise, mais en tout cas, la thune représente aujourd'hui 505 279 euros.
Il n'y a pas de centimes, je te vois. Tu vois,
non, mais c'est pour ça qu'ils voulaient arrondir. Bon, ils se sont dit, non, on ne peut pas arrondir à l'euro près, donc on arrondit aux 61 000 euros, tu vois.
Soit peut-être de milliers d'euros près, vous vous rendez tranquille.
Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on dit souvent quand même, quand on aime, on ne compte pas. Et ça, Laurent Wauquiez, quand il vous aime, il vous donne tout ce qu'il a. Enfin, tout ce qu'il a, surtout quand c'est de la thune qui sort pas de sa poche.
Oui,
surtout
l'argent de la région, à l'occurrence.
Oui, vraiment, t'es un peu tatillon, moi, je trouve, ce soir, Fab. Vraiment, c'est pas constructif.
Non, c'est vrai.
C'est un peu disruptif, moi, je trouve. Pardon. Et donc, Laurent Wauquiez soutient rarement, quand même, en donnant autant de lui-même. Parce que ouais, le monsieur il a quand même fait une vidéo de promo pour ce spectacle sur les réseaux sociaux commerciaux et il ne se donnerait pas autant non plus si ça servait pas à son idéologie politique parce que bon, Laurent Wauquiez c'est pas juste un petit être humain comme ça tout vide, non, il a l'air vide mais il est plein et il est plein de trucs qui sont pas forcément très agréables à mon oreille et pour mon cervelet et il le dit d'ailleurs lui-même pas en parlant de moi mais du spectacle.
Jérémy s'est perdu. Il s'est perdu les lois là.
Vous avez pas l'image, mais Clara se tient la tête en se disant mais c'est quoi ce bordel. Alors donc, il le dit d'ailleurs lui-même. À une époque où les fondations de notre identité et de notre civilisation sont remises en cause, il est de notre responsabilité en tant qu'élus de les défendre et les consolider pour les transmettre aux générations futures. Avec Raconte-moi la France, Bruno Cellier s'inscrit pleinement dans cette ambition. Raconte-moi la France véhicule des valeurs qui me sont chères. Je parle toujours pour Laurent Wauquiez. Hein,
ah ouais, parce que j'ai eu peur.
On s'entend bien.
J'ai eu peur, là.
Qui me sont chers. La passion de l'histoire. Hein, je pourrais peut-être essayer de l'imiter, mais j'y arrive pas. Pardon. La passion de l'histoire et la transmission de ses enseignements. La région, en tant que partenaire, a souhaité que la première se joue au plateau de Gergovie, non loin de Clermont-Ferrand, c'est ce dont je vous disais avant.
Et qui ne se situait pas là.
Où s'est déroulé l'un des épisodes les plus marquants de la guerre des Gaules, faisant la base de notre roman national.
Alors déjà, non mais, pardon. Mais
je savais que t'as envie de réagir.
Ouais, parce que ça m'énerve. Alors, il y a déjà trois trucs qui m'énervent dans ce truc-là. Le premier,
moi, c'est... ça m'énerve déjà de parler de Laurent Wauquiez. Mais bon, je prends sur moi.
M'en est bien obligé. non, mais déjà, le premier truc, on peut pas mettre histoire et roman national dans la même phrase.
Non.
Parce que l'histoire, c'est une science. C'est une science imparfaite parce qu'on découvre de nouvelles choses régulièrement. C'est normal, comme toutes les sciences, il n'y a pas de science parfaite. Il n'y a que les religions qui sont parfaites parce qu'elles sont
immuables.
Alors que la science, par principe, on redécouvre des trucs, on se dit, ah tiens, en fait, c'était pas comme on pensait. Voilà, et c'est bien, parce que voilà. Donc, déjà, dire, on va. Histoire et roman national. Alors, le roman national, c'est quoi? Le roman national, c'est un truc qui est quand même bien inventé. Mais tu voulais le définir. Définis-le.
Ah bah, le roman national, en fait, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me le suis écrit. Alors, évidemment, ce n'est pas ça sort pas de Larousse ou de je ne sais pas quel dictionnaire. En tout cas, moi, je l'ai écrit comme c'est une sorte de fable où la France ou tout autre pays. Hein, attention, le roman national, il n'est pas propre à la France. Hein, faut arrêter de croire ça. Hein. Il est souvent présenté comme magnifique. Parfait. Le roman national, en fait, il falsifie surtout l'histoire. Il retire du réel, quand il n'est pas en faveur du pays. Hein, le roman national, en fait, c'est au service du patriotisme, du nationalisme, en s'asseyant assez lourdement sur l'histoire. C'était ma définition.
C'est exactement ça. Et il y a deux exemples très précis là-dessus. Par exemple, Vercingétorix, l'image que tout le monde a de Vercingétorix, en fait, c'est Napoléon III. Parce qu'en réalité, il avait fait faire une grande statue de Vercingétorix avec sa gueule. À Napoléon III. Et en fait, il n'a jamais ressemblé à ça. D'abord, il était beaucoup plus petit.
Et Vercingétorix, c'est pas celui qui était porté par le village?
Non, ça c'est après raccourci que c'est dans les.
Ah ouais, pardon. Ah ouais,
mais c'est celui qui, soi-disant, aurait jeté, vous savez, les trucs aux pieds de César.
Ouais.
Et dans le roman national, par exemple, une chose historique qui a été réécrite autour de Vercingétorix, c'est que Vercingétorix, c'était un peu un bourgeois des Gaulois. C'est-à-dire qu'en fait, il avait été à l'école de Rome. Il avait d'ailleurs côtoyé César plus jeune à l'école de Rome. Ils se connaissaient. C'était pas des inconnus, l'un et l'autre. Donc, c'était plutôt des gens issus de la même classe, pour en parler un petit peu, voilà. C'était pas comme on essayait de nous le présenter, le petit Gaulois qui s'était relevé face à l'adversité, tout ça. Non, c'était déjà un gars qui était installé, qui était fait pour être chef, qui faisait partie de ceux qui envoyaient les gens à la guerre, hein. C'était pas, voilà. Donc déjà, rien que ça, c'est une réécriture. Et la deuxième réécriture qui est la plus connue, c'est Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, tous les historiens aujourd'hui disent elle a existé, oui, elle entendait sûrement des voix, mais on ne sait pas de qui, ça c'est pas le problème. Mais c'est pas surtout ça le truc, c'est que historiquement parlant, Jeanne d'Arc, c'est une petite femme ronde, brune. Voilà, parce que dans la région où elle se trouvait, en fait, elle devait ressembler à peu près à ça. Sauf que dans le roman national, parce que ça faisait pas assez angélique, je sais pas comment dire, ou sainte, vous voyez, on l'a représentée grande, forte, puissante et blonde. Parce qu'il y avait, je vous rappelle que le roman national est écrit à un moment très précis de l'histoire, hein, c'est-à-dire sous Napoléon III, et qu'on commence quand même un petit peu à aller vers tout ce qui est thèse racialiste et compagnie, donc fallait quand même un peu gommer le fait qu'elle était pas assez blonde aux yeux bleus. Voilà. Et donc, du coup, ça, ces deux exemples, et tous les historiens font des bons en disant, mais il faut arrêter avec ces conneries-là. Il arrive et nous dit, ah, si on réécrivait le roman national.
Lui enlèves quand même le fait qu'il aime l'histoire.
a priori, pas vraiment.
Laurent Deutsch aussi aime l'histoire, c'est pas pour autant que ça fait partie du consensus des historiens.
C'est vrai.
C'est toujours la problématique, hein, c'est-à-dire que comme on peut avoir des scientifiques qui peuvent tenir des propos
ultra
minoritaires, mais qui vont jouer de leur position.
Mais là, c'est plus dangereux parce qu'on a des politiques qui veulent écrire l'histoire. Et c'est pas leur job, hein. On rappelle que le job d'écrire l'historiane, c'est celui des historiens.
Oui, certes.
Et historienne, d'ailleurs.
On peut se souvenir de. C'était Sarko, je crois, et Guénaud, avec le rôle positif de la colonisation.
Non, c'est ça. C'est comme ça qu'en politique, on veut influer sur l'histoire, alors que l'histoire, ça ne s'écrit pas comme ça.
Alors, bon, si jusque-là, vous aviez encore des réserves sur la vision véhiculée par ce spectacle, bon, déjà, je pense qu'il vous en faut beaucoup, mais c'est pas grave, j'ai pensé à vous. Justement, en vous donnant quelques infos hein, sur ceux qui ont aidé à la création de ce spectacle. Et ça devrait vous aider à y voir plus clair. Alors déjà, Thierry Lenz, grand fan de Napoléon, il est régulièrement invité hein, dans des médias d'extrême droite, comme Livre Noir ou encore Radio Courtoisie. Voilà. Il est directeur
voilà.
de la.
Voilà.
Il est directeur de la Fondation Napoléon.
Ah oui.
Et il est également professeur à l'Institut catholique de Vendée. Alors, c'est un institut hein, qui a souvent été dénoncé pour ses positions réactionnaires. C'est étonnant. Fondé en 1990 sous l'impulsion d'un certain Philippe De Villiers, qui était alors président général de Vendée. C'est bizarre ça, tu vois, j'aurais pas mis De Villiers et réactionnaire à côté. Vraiment, il y a des choses, on, tous les jours on en apprend dans la vie. Pardon. Et donc Bruno Cellier, dont avant Wauquiez nous clamait toute la gloire qui lui revenait, qui est donc le producteur de Raconte-moi la France, il a également lui aussi fréquenté l'Institut Cato et il est au passage, c'est vraiment une anecdote, hein, le beau-frère d'un des fils de Philippe de Villiers.
En voilà. Soit un hasard.
Tout ça, c'est un petit hasard. Et Raconte-moi la France, dernière petite info, hein, s'est attaché les services de Karine Orbriançon, la chorégraphe de du Puy du Fou.
Ah bah ouais.
Mais vraiment, rassurez-vous, c'est tout ça, c'est un pur hasard. Encore une fois, la vie fait bien le hasard. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de Vendéens et de Vendéennes, je trouve, hein, du moins des
proches. Ça fait beaucoup de réactions, surtout.
De la sphère de Villiers, c'est justement ça, hein, de la sphère de Villiers et du Puy du Fou, pour imaginer que ce spectacle serait nuancé.
Ou neutre, d'ailleurs.
Ou neutre, même. qui donnerait des faits historiques avérés, etc. Bon, bah, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas le cas. Donc, Wauquiez, hein, je me disais, qui aime à dénoncer le wokisme, qui n'a visiblement pas de problème avec la falsification de l'histoire, avec le nationalisme, qui, eux, sont des choses bien réelles comparées au wokisme qui n'a rien de réel. Encore une fois, hein, l'extrême droite n'a pas besoin que son parti attitré ait réellement le pouvoir pour que ses idées soient étalées, défendues, mises en scène et grassement financées par l'argent public. Ben non, parce que Laurent Wauquiez, il est là. C'est pas le seul, hein, mais voilà, petite fierté locale.
Ouais, voilà, c'est un peu le régional de l'étape pour nous. Ouais. Donc...
C'est
normal qu'on en parle.
C'est le régional de l'État, c'est exactement ça, quoi. Dans le Tour de France réactionnaire.
Bah ouais, je veux dire, là, nous,
on a Wauquiez.
Ah, et on n'a pas que lui, hein, mais lui, on le tient, il est là. Hein,
il est là, il est bien là. Alors, oui, hein, forcément, ce sera peut-être rien de neuf pour les plus aguerris, pour les plus politisés de nos auditeurs et auditrices. Mais je pense qu'il est vraiment important de continuer de dénoncer ces pratiques politiques. Et encore une fois, là, j'ai quasiment tout repris de chez Rue 89 Lyon. Et c'est vraiment justement très bien d'avoir un média local qui va justement gratter et fouiller un peu de ce côté-là parce que nous à Cagnes on n'a pas forcément déjà on n'a pas l'étiquette journaliste, on n'a pas le temps de faire ce genre d'enquête, etc. et que c'est un vrai boulot, donc c'est vraiment important de continuer de sortir ce genre d'affaires-là. Et je voulais juste finir pour contextualiser un peu tout ça autour de ces 500 je sais plus combien, 505 000 euros qu'ils ont versés. Il faut savoir que dans le même temps, nombre de petites structures culturelles sont toujours dans l'attente de subventions pour l'année 2024.
Hein ? Ben oui.
Ce qui fragilise évidemment leur trésorerie. Mais à ce propos, la région là, elle avance le fait de la nécessité d'une analyse approfondie.
Voilà. Ils l'ont pas fait pour le.
En fait, ce que moi je propose aux petites structures, c'est qu'elles fassent des appels d'offres ou qu'elles répondent à des appels d'offres
pour s'auto-promotionner
et qu'au moins comme ça, elles arriveront à toucher de la thune publique, parce qu'il faut croire qu'il faut être dans les petits papiers des politicards pour pouvoir toucher de l'argent qu'on a le droit de toucher, quoi, en fait. Donc voilà, c'était une petite info locale, régionale, fort croustillante et fort intéressante. Mais voilà, on aura donc bientôt un Puy du Fou version nationaliste, parce que quand même le Puy du Fou, et c'est un peu vendéen.
Ah non, là, ils ont élargi.
Ils ont élargi.
Ah ouais, c'est devenu. Moi, j'ai
ils ont dépassé le génocide vendéen.
Ouais, j'ai regardé. Alors, je le dis comme ça, j'ai regardé l'excellente émission sur YouTube de Nota Bene, qui a fait une émission, trois émissions sur le Puy du Fou, où justement, il reprend chaque tableau et il explique en quoi, historiquement, c'est complètement foireux, mais surtout en quoi c'est dangereux, parce que ça présente en fait une vision de l'histoire qui est complètement tronquée, biaisée et extrêmement. Comme tu disais, hein, la France n'a fait que des belles choses. choses, voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est très dangereux et très grave de présenter des choses comme ça. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, et je le dis très sincèrement, c'est qu'en fait, le Puy du Fou, on a l'impression comme ça que c'est un petit truc. En fait, aujourd'hui, c'est 9 parcs d'attractions dans le monde. Donc c'est en train de se disséminer un peu partout. C'est à chaque fois la même recette, c'est-à-dire une réinvention, une réécriture de l'histoire au bénéfice, on va être très clair, des populations blanches et catholiques ou blanches et chrétiennes.
C'est une vraie guerre culturelle.
C'est une vraie guerre culturelle. Et le problème, c'est que le Puy du Fou, ça reste aujourd'hui le parc d'attractions le plus visité en France.
Oui.
Donc il y a un moment, il va falloir, enfin, hormis le parc français, hormis Disney, qui lui reste le premier, mais en fait, en parc, c'est le second. Enfin, c'est celui-là. Et c'est assez grave parce que, comme le disait Nota Bene dans une de ses vidéos, c'est quand même entre des millions de personnes, parce que depuis que c'est ouvert, ça fait des millions de personnes, qui vont voir un spectacle pensant qu'il est neutre ou qui dit la vérité, et en fait qui ont une vision extrêmement tronquée de ce qu'est l'histoire et surtout extrêmement fausse. Il donnait des exemples sur les gladiateurs, par exemple, qui présentent les gladiateurs un peu comme on le fait dans les films hollywoodiens des années 50, alors qu'on sait aujourd'hui qu'historiquement les gladiateurs, ça avait rien à voir avec ce que Hollywood en a fait. Mais voilà, après, on pense qu'on veut des films hollywoodiens, mais il y a un moment donné, il y a des historiens qui ont rappelé ce qu'étaient les gladiateurs, qui étaient majoritairement végétariens, que c'était pas que des esclaves, qu'il y avait une caste des gladiateurs, enfin, c'était beaucoup plus compliqué que simplement des gens qu'on prenait et qu'on jetait dans une arène, même si c'est dégueulasse et qu'il faut pas le faire. Mais il disait, voilà, rien que ça, par exemple, toutes ces nuances-là n'existent plus. Et en fait, le problème, c'est que c'est vrai pour tous les tableaux qui sont présentés. Ils présentent la Révolution française, où en fait, vous avez l'impression que c'est quasiment les nobles et les bourgeois qui ont fait la Révolution française, et on oublie le peuple n'est là qu'en support de gens, voilà, parce que c'est l'idéologie portée par De Villiers, c'est-à-dire l'idée qu'il faut une caste éclairée qui
qui
guide le peuple. Donc en fait tout ça, il dit, mais en fait c'est extrêmement dangereux, et de voir arriver ça en région Rhône-Alpes, c'est un signe de plus en fait de cette, comme tu dis, de cette guerre culturelle qui est menée aujourd'hui par une partie des réactionnaires et de l'extrême droite, et qu'il faut qu'on arrête de sous-estimer. Et je vais le dire avec mes mots, j'ai vu des trucs très, très intéressants sur des gens qui s'étaient offusqués qu'en 1992-94, il y avait un village Bamboula qui avait été ouvert, et c'était une horreur absolue. Je ne suis pas en train de dire que c'était bien. Et ils regardent ça en disant, mais regardez ce qui s'est... Sauf que là, en fait, raconte-moi notre histoire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de silencier, invisibiliser toute une partie de la population française. On est en train de silencier, d'invisibiliser toute une partie des gens qui ont été colonisés, massacrés, torturés, détruits, déportés par la France pendant des siècles, au nom d'un roman national où la France aurait été un pays qui éclaire le monde. Et ça, en fait, c'est aussi dangereux, voire même peut-être plus, que l'était encore le village Bamboula, qui était une saloperie sans nom. Mais on laisse passer sans s'offusquer, à mon avis, suffisamment fort. Et c'est là que je pense qu'on a un problème.
Bah, et en même temps, dans les années 90, sur le village dont tu parlais, qui était à Nantes, je crois, de mémoire.
Ouais, c'est ça, c'était pour les gâteaux.
C'était pas non plus beaucoup de gens qui se soulevaient contre, quoi.
On voit qu'on refait la même erreur.
Oui,
en fait.
Oui, c'est ça, juste que je pense que dans 10-15 ans.
Tu traduis bien ma pensée, parce que c'est ce que je voulais dire.
Je pense que dans 10-15 ans, des gens diront, oh là là, il y a un spectacle réactionnaire.
Oui, c'est pas dans 15 ans qu'il faut se réveiller, c'est maintenant.
En fait, c'est maintenant, quoi. Il faut dire que c'est de la merde et il faut continuer de le dire, quoi.
Bah, t'as traduit ma pensée, parce que c'est ce que je voulais dire.
Ben voilà.
De pas attendre 15 ans et dès maintenant dire. Non, quoi.
Dire non, et c'est de la merde. Et ben voilà, c'est sur ces beaux mots et à peine odorants que nous allons passer à la musique avant de se retrouver.
De matos viennent chez Mao, des grosses basses frappent le Pao, de quoi faire tomber KO, pour la France et Jendao, diplôme du Mac Macao, c'est Ying, c'est Yang, c'est Tao, le son est chaud cacao. Pour flex, pour le flow, apporte des glaces en Oslo, snowboard en portant de l'Oxbo, glisse tout chou sur de l'Oxmo, fuck le yacht, pédalo, petit verre, mentalo, prends le temps de dire hello, avec le maillot yellow. De matos viennent chez Mao, des grosses basses frappent le Pao, de quoi faire tomber KO, pour la France c'est Jendao, diplôme du Mac Macao, c'est Ying, c'est Yang, c'est le Tao, le son est chaud cacao. A tous les grands danseurs à la Crawford Billy, j'suis pas le matelot pêcheur de surimi, habile dans le flow, j'follow Billy Billy, c'est garba le matin, magie Billy Billy, j'ai pris des vitamines anti-beriberi, et puis le berberi d'hiver en Sibérie, là j'ai croisé des faux, des fakes, des simili, 10 000 à 20 000 et 1000 à Miami, Guggenheim, Bilbao, des photos de Mao Mao, chez Pedralta, Bacalao, 98 France, c'est les Sao, Brickety, Tam Tam Gao, dans les mangas des Bao, un mur de Tazibao. De matos viennent chez Mao, des grosses basses frappent le Pao, de quoi
doit faire tomber KO. Pour la France c'est Chen Dao. Diplôme du Mat Macao. C'est Ying, c'est Yang, c'est Tao. Le son est chaud cacao. Pierre Feuillet vos Tao. Que le nappel est nomme dans les conservatoires, le rappeur efficace. Fait des bubbles assis sur le stalag, c'est en flaque qui perfore les tympans puis se casse. Résistance métallo, l'endurance du vélo. LOL, LMFAO, on porte maillot, maillot. Le matos vient de chez Mao, des grosses basses frappent le pao. De quoi faire tomber KO, pour la France c'est Chen Dao. Diplôme du Mat Macao, c'est Ying, c'est Yang, c'est le Tao. Le son est chaud cacao, Pierre Feuillet vos Dao.
Eh ben ça remue, hein. Alors vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Cagno 102.2 de la bande FM, évidemment. On vient de s'écouter un titre que j'adore vraiment beaucoup, même si ça fait old school. Oui, en même temps je suis vieux. Donc on l'assume, c'est un titre de MC Solar, c'est Pierre Feuille qui est sur son dernier EP,
ouais,
qui est sorti
dernier album
en 2023 ou 24. Et que j'adore vraiment. Mettez-vous ça à fond avec les basses bien, bien, bien tendues et ça fait vraiment beaucoup de bien.
Bah oui.
Alors je me tais et je passe la parole à Fab qui va nous parler de la jeunesse réactionnaire.
Alors pas tout à fait, mais vous allez voir. J'avais mis un point d'interrogation, mais vous allez comprendre. Donc il y a un sondage qui aurait surpris, on a entendu pas mal parler. Et moi je me demandais si vraiment il était surprenant. Donc à l'occasion de la journée mondiale du coming out, hein, c'est-à-dire le 11 octobre, parce que c'est tous les 11 octobre. L'association Contact a fait appel à Ipsos et à la fondation Jean Jaurès pour réaliser une large enquête auprès de Françaises et de Français âgés d'au moins 18 ans, ayant reçu un coming out de la part d'une personne de leur entourage proche. Voilà. On peut, comme souvent, se dire que ces études ne servent à rien, on peut se cacher derrière son petit doigt, ou alors on peut quand même se dire qu'elle pose quelques petits trucs qu'elle peut mettre en lumière et quelques phénomènes de société. Bah, par exemple, comment sont perçues les personnes LGBTI+, quand elles font leur coming out. Déjà tout simplement ça. Alors, un des premiers enseignements de l'enquête, hein, pour commencer par du positif, c'est que 80% des personnes ayant reçu un coming out, ressentant des émotions positives, voilà, c'est ce qu'elles disent, et 82% ont une bonne image des personnes LGBTI+, aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est un net progrès, hein, quand on sait qu'il y a 15 ans en arrière, parce que cette enquête, elle n'est pas faite, elle est faite régulièrement, elle est faite en fait tous les 3-4 ans. Il y a 15 ans en arrière, à peu près, on était à 50% de gens qui avaient reçu ça de façon positive. Donc c'est plutôt une belle progression qui est quand même positive. Ce qui semble aller quand même dans le sens de plus d'acceptation, hein, c'est que la représentativité et la visibilité ont aidé à cette acceptation. Donc, comme quoi, quand on est célèbre et qu'on affiche, cela n'a pas aucun intérêt, comme certains le disent. Ça aide aussi vraiment, par exemple, à ce qu'on puisse voir qu'il existe des LGBTQIA+, et que, bah, en fait, si votre fille, votre fils, votre neveu, votre nièce, votre ami, votre meilleur ami, vous dit, en fait, je suis... mettez ce que vous voulez derrière, et ben c'est pas un drame. Voilà.
Qui dit je ne suis pas hétéro.
Bah, qui dit ouais, ouais, ça serait aller plus vite, je l'avais dit comme ça. Voilà. Et, mais ça résout pas tout. Pour être très clair, ce que dit l'enquête, c'est que, en fait, la visibilité ne résout pas tous les problèmes, mais ça aide à une meilleure acceptation. Petite nuance, mais elle est très importante quand même, c'est pour les personnes trans. 26% des personnes interrogées perçoivent le coming out trans comme plus complexe dans ce cas pour ceux liés à l'orientation sexuelle que pour ceux liés à l'orientation sexuelle. Alors, c'est assez étrange, mais on en est arrivé à ce que des gens disent « j'aurais préféré qu'il soit homosexuel ». Bon, non, t'aurais pas préféré, c'est juste que tu as un peu perdu, mais c'est pas grave. Donc les personnes trans expriment quant à elles plus de réticence du coup à faire leur coming out, plus de peur, et cela se comprend hein, quand on voit les discriminations et violences qu'elles subissent, y compris dans le champ dit progressiste de l'échiquier politique. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même quelques personnes qui se disent encore de gauche, qui ont quand même des positions transphobes assez assumées. Donc, il y a quand même aussi dans cette enquête quelque chose qui a surpris, mais qui, moi, finalement, ne m'a pas tant surpris, mais vous allez comprendre. Il y a une jeunesse qui est un peu tiraillée dans tout ça. Il y a, par contre, un chiffre donc, qui est ressorti de cette enquête auquel personne ne s'attendait, vraiment. Et c'est en particulier les hommes jeunes qui représentent la part la moins tolérante du panel. Ça peut surprendre, mais c'est bien les hommes les plus jeunes, les moins tolérants du panel. Oui, même les plus de 75 ans sont plus ouverts que les moins de 25 ans. Alors, comme le souligne Anthony Debar hein, pour Radio France, je cite mes sources, parce qu'après on va me dire tu ne cites pas des sources, il l'a dit à l'antenne, il y a un paradoxe entre le fait d'avoir une certaine jeunesse qui se révèle plutôt et vive plutôt leur homosexualité ou leur transidentité, et à contrario, une jeunesse qui est moins tolérante sur ces questions-là. Et pourtant, il y a quand même une logique que l'on retrouve partout. Quand on parle du droit des femmes, des violences sexistes ou sexuelles, du droit des minorités ethniques, c'est systématiquement chez les 18-25 ans que les réponses sont les plus réactionnaires sortent, et en particulier chez les hommes de 18-25 ans. L'enquête sur le coming out ne fait donc pas exception et vient confirmer que l'ancrage réactionnaire en France est bien pour l'heure dans la jeunesse, notamment la jeunesse masculine, qu'elle soit des villes ou des champs d'ailleurs. Parce que là, par contre, il n'y a aucune différence. Voilà,
contrairement c'est intéressant, ouais. Enfin, c'est intéressant. Oui.
Bah oui, non, mais si, c'est intéressant.
Mais, si, oui.
Ils n'ont pas marqué de différence entre quand c'était quelqu'un qui habitait un village de 500 habitants et quelqu'un qui habitait une ville de 10 millions d'habitants. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de générationnel. On note par exemple que dans cette enquête, 26% des moins de 35 ans et 24% des hommes ayant reçu un coming out aujourd'hui ont aujourd'hui une mauvaise image des personnes LGBTQIA+, contre 18% pour l'ensemble des personnes interviewées. Donc c'est quand même un petit peu plus élevé. Il y a donc une focale logique liée au patriarcat, mais aussi un effet d'âge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux effets qui se cumulent. La génération actuelle ayant entre 15 et 35 ans étant la plus bousculée dans la remise en cause du patriarcat, ce qui est une bonne chose. Hein. Attention, je suis en train de dire qu'il ne faut pas remettre en cause le patriarcat. Mais comme tout avancé, il y a en fait un effet de contre-coup, de backlash, comme on dit souvent, qui est important dans cette jeunesse-là. Parce que c'est celle qui est en train de vivre les remises à plat des façons de vivre. Donc en fait, il y a une partie de cette jeunesse qui veut réagir. Mmh. Donc c'est de la réaction et qui dit non, mais moi j'ai pas envie qu'on j'étais mieux avant, voilà.
Effrayé.
Ça rejoint d'ailleurs un reportage qu'il y a eu il y a pas très longtemps à la télévision sur les tradwives qui sont majoritairement des femmes de moins de 30 ans qui veulent vivre comme vivaient les femmes dans les années 50, voilà. Mmh. Donc on le voit d'ailleurs ce backlash par le succès sur les réseaux sociaux des mâles alpha. Façon Thibaut InShape ou Inox Tag d'ailleurs qui vous savez, c'est celui qui a grimpé l'Everest et qui dans toutes ses interviews nous explique qu'il a une sorte de mojo viriliste et d'homme pour arriver en haut de l'Everest et en fait en réalité oui parce qu'il parle du Kaizen et le Kaizen en fait c'est quelque chose de très important dans la culture japonaise mais surtout quelque chose de très machiste donc c'est pas anodin quand on dit Kaizen vous voyez donc voilà c'est pourtant c'est le titre de son reportage mmh. Moi quand je l'ai vu je dis putain c'est marrant tiens qu'il emploie ce mot-là parce que c'est...
J'étais persuadé que c'était une montagne.
Non, en fait, c'est aussi une expression notamment dans la culture, dans les mangas japonais. Okay. C'est, vous savez, quand le héros il se dépasse parce que c'est un homme, un vrai. Voilà. Bon. Et donc, c'est une vision quand même très virgiliste du rapport en société, hein, globalement. Mais aussi, d'ailleurs, des discours masculinistes et incels, on en avait parlé dans la causerie, un de ces discours, qui ne reculent pas, bien au contraire. Leur omniprésence sur les réseaux sociaux leur donne un poids très important et leur permet d'influer politiquement, notamment sur la jeunesse qui est extrêmement friande des réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un jeune sur deux ne s'informe plus que par les réseaux sociaux. Donc c'est une source pour eux d'information. Donc forcément, si ces discours sont très présents, bah forcément, ils finissent par rentrer dans les têtes. Pas de tous les jeunes, encore une fois, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais d'une partie de la jeunesse. Souvent d'ailleurs, il y a quand même des financements qui viennent pour ces influenceurs et influenceuses de gens comme Elon Musk ou de groupes religieux. Donc il n'y a pas de surprise à les voir porter ces discours-là. C'est dur à dire ça après 22h. Chez les jeunes hommes, 15% des hommes de moins de 25 ans déclarent un impact négatif sur leurs relations suite à un coming out, y compris au sein de leur famille, donc y compris quand c'est leur frère, leur sœur, ou voilà. Contre 8% pour l'ensemble de la population. Donc là aussi, on voit que c'est beaucoup plus marqué. Et là encore, c'est un décrochage qui est plus que significatif et qui démontre bien qu'une polarisation se met en place entre une jeunesse ouverte d'un côté et une jeunesse réactionnaire de l'autre. C'est-à-dire qu'on a une vraie polarisation des positions. C'est pas juste diffus, quoi. Et cela ne se fait, encore une fois, pas tout seul. La population jeune est aussi celle où le retour du religieux, des valeurs traditionnelles, sont les plus ancrées en ce moment. Souvent par un effet de rejet d'une société qu'ils ne comprennent pas ou tout simplement qui ne les comprend pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à force de mettre les jeunes de côté, eh ben ils peuvent aussi avoir une réaction réactionnaire en se disant cette société, en fait, elle veut pas de moi. On le voit, il y a un risque assez fort de retour en arrière de l'acceptation et des conditions de vie pour les personnes LGBTQIA+, même si on a avancé dans le bon sens. Mais encore une fois, pour les lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, queer et autres, c'est le fameux QIA+, en fait, rien n'est gagné. L'enquête souligne quand même le besoin d'aide et de dialogue pour accueillir et accepter un coming out. Les parents, par exemple, passent de 48% d'acceptation complète au moment de l'annonce il y a 15 ans à 61% aujourd'hui. C'est-à-dire quand un de vos enfants fait un gamin autre. C'est assez énorme, hein, c'est bien. Et c'est positif. Et l'enquête souligne que le rôle des associations est central dans tout ça. La preuve en est qu'avec 72% des personnes interrogées qui indiquent que se renseigner via des associations, souvent sur leur site internet ou leurs réseaux sociaux, a été bénéfique et les a aidés à avancer dans la compréhension. Petit bémol, seuls 15% ont réellement franchi le pas de se faire aider concrètement par des associations, ce qui reste encore faible. Et c'est dommage, parce que c'est des lieux de dialogue, les associations. En même temps, quand on empêche les associations de venir dans les écoles, les collèges et les lycées, coucou Laurent Wauquiez, faut pas s'étonner que le réflexe ne soit pas pris. Bah oui, parce que c'est l'éternel chat qui se mord la queue. Voilà. Et c'est là aussi un choix politique hein, qui entraîne ce faible taux, mais qui entraîne aussi peut-être la montée de la réaction dans la jeunesse. Vous voyez, c'est un petit peu un cercle non vertueux. D'ailleurs, en parlant politique, l'enquête est venue à demander si les personnes non-LGBTQIA+, s'opposaient à la cause des LGBTQIA+, et la réponse a été de 25% des personnes qui s'y opposent. Alors oui, parce qu'on peut d'un côté accepter le coming out de son enfant, par exemple, mais de l'autre, lutter contre ce qu'il est. Bah, même si ça vous surprend et qu'à mes yeux c'est totalement incohérent, bah, en fait c'est possible. Donc voilà. Donc il reste encore un quart des personnes qui veulent lutter contre les LGBTQIA+. Bon voilà.
Ce qui veut quand même aussi dire qu'on est 75% à ne pas avoir ce problème-là.
Alors pas vraiment, parce que l'acceptation elle est qu'à 30%. L'acceptation totale. Wow. Entre les deux, c'est ne se prononce pas ou n'a pas vraiment d'avis. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention parce que ça peut basculer quand même à un moment donné. J'aurais aimé hein, justement qu'on soit 75% à dire. Voilà.
Pour une fois que j'étais positif.
Mais non, mais on est plus, il y a plus de personnes, donc 30% c'est plus que 25.
C'est peanuts,
mais il y a entre les deux une zone de flou. C'est pour ça que je disais au-dessus, faire attention parce que les retours en arrière peuvent être possibles. Ouais. 47%, alors, on va quand même parler politique. 47% des sympathisants de l'extrême droite s'y opposent. Hein, voilà. 37% de ceux de droite, 24% du centre, et quand même 6% à gauche. Ce qui est quand même assez élevé, hein, pas non plus. Voilà. On voit quand même qu'il y a une polarisation, hein, mais aussi un fait intéressant, car même à l'extrême droite, on est sous les 50%. Ce qui est le cas que très récemment. Si on parle en population générale, c'est-à-dire si on prend tout le monde, 32% des hommes et 19% des femmes s'opposent au LGBTQIA+. Oui, mesdames, vous avez toujours été plus tolérantes que les hommes. Et ça se démontre, encore une fois. Et la plus forte proportion revient quand même aux 36% des hommes jeunes de moins de 35 ans. C'est encore là qu'on a la plus grande force, entre guillemets, réactionnaire dans cette enquête. On peut voir là que le patriarcat continue de façonner le rapport aux autres. Et comme le disait encore récemment Jean-Yves dans l'émission, que tout est lié. La cause des femmes, des LGBTQIA+, des personnes racisées, etc., etc., etc. Et qu'on ne peut pas tout délier, parce que ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, et qu'il faudra sans doute creuser, c'est que l'extrême droite et la réaction se transforment. Le rejet des LGBTQIA+, reste un ciment solide, mais plus majoritaire. Et cela va sans doute demander du temps pour comprendre ce qui, aujourd'hui, unit vers les idées les plus réactionnaires une partie de la population et surtout de la jeunesse. Et c'est là qu'en fait, il va y avoir vraiment une interrogation. Parce que s'il y a 36% des hommes jeunes qui rejettent les LGBT, il y a quand même 51% des hommes jeunes qui ont une image positive du Rassemblement National. Donc il y a encore, malheureusement, hein, il y a une part importante des jeunes qui aujourd'hui sont tentés par la réaction. Et notamment des hommes jeunes. Parce que je rappelle que là, il y a un vrai phénomène de genre.
Non, mais ça tient.
Bien sûr que ça tient.
Pardon, mais je te coupe vite fait, mais c'est parce que dernièrement j'ai vu un reportage sur un Américain pro-Trump, machin truc, c'est un rappeur, il fait du rap pro-Trump, etc. Et en fait, il terminait son intervention en disant il faut voter Trump parce que lui, il a des boules.
Ouais, c'est ça, c'est un mec, quoi.
C'est un bonhomme. Et ouais. En fait, vraiment, on se rend compte que le noyau, il est vraiment en train de se reformer autour des testicules. Non, mais c'est. Mais en tout cas, autour du masculinisme et, ouais. Et tout ça, quoi.
Tout à fait.
Peut-être encore plus qu'avant et sous une tournure différente, en fait.
Alors, si on peut, donc, d'un côté, quand même, se réjouir de voir les choses qu'elles sont plus positives qu'on ne pouvait le craindre, mais d'un autre, quand même, s'inquiéter, quand même, fortement, que pour les personnes trans, et des réactions d'une partie de la jeunesse qui va vieillir, hein, en partant sur des bases plus dans le rejet que le reste de la population. Et ça, c'est quand même plutôt inquiétant. Faut pas, voilà, parce que c'est, hein, on parle de jeunes de plus de 18 ans, ils vont être parents bientôt. Donc voilà. Si tout le monde peut évoluer, hein, il faut encore souhaiter aller que ça aille dans le sens de l'empathie et pas dans le sens inverse. Donc il y a sûrement je dirais un travail à reprendre. Je sais pas comment dire ça autrement, mais des approches à reprendre pour essayer de faire descendre cette propension au rejet de l'autre, parce qu'elle est encore très très marquée. Et alors, je t'entends, toi de l'autre côté là. Oui, je t'entends. T'es là, t'es sur l'autoroute, tu viens de mettre le 102.2 par hasard, et d'habitude t'écoutes Pascal Praud, et tu te dis « Ah ben ouais, mais ça c'est la faute des Arabes ». Oui, je sais, je t'entends, parce que je connais, parce que tu dis pas... Ah non, tu dis musulman.
Non, oui, ben,
tu dis musulman parce que t'écoutes Pascal Praud, et que t'as compris sinon que tu allais prendre une amende de l'ARCOM. Donc en fait, je te le dis, dans cette enquête, tout a été démontré que ça n'a aucun rapport avec la religion, l'origine ethnique, l'origine, la couleur de peau, le nord, le sud, l'ouest et l'est de la France, c'est homogène. Donc en fait, tu ne peux pas te servir de cette enquête pour dire « Ah, c'est la faute des banlieues ». Ça ne marche pas. Alors, désolé pour toi.
Non, mais alors voilà. En fait, s'il fallait juste démontrer que ça ne marche pas pour qu'ils ne le fassent pas, on le saurait.
Non, mais je voulais le souligner.
Mais tu fais
parce
bien
que
de
je
ne
veux
dire,
pas laisser une ambiguïté.
Non, mais
j'ai fait ça avec humour, mais
tu
voilà.
Fais bien de dire, parce qu'en plus, souvent, en fait, les partis d'extrême droite, quand même, se raffermissent autour de ces choses-là.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils deviennent pro-LGBTI, pro-droit, défense des droits des femmes, etc. Ce qui, en fait, est complètement...
Pour taper sur les musulmans
ouais. Qui seraient, je ne sais quoi, dans leur fantasme de fascistes. Alors qu'en fait, c'est juste politique et tactique, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est pas parce qu'il y a 3 ou 4 LGBT au Rassemblement National que ça démontre une ouverture, etc. Et que, encore une fois, même si elle existe, c'est pour discriminer un autre groupe minoritaire.
Et puis ensuite discriminer l'autre groupe.
Mais oui, et en fait, c'est toujours... C'est... Mais encore une fois, si Le Pen était féministe et pro-égalité, ça se saurait, ils ne seraient pas dans leur parti et leur parti n'existerait pas.
Tout à fait.
Si leur parti existe, c'est bien parce qu'ils sèment la division et la haine.
Mais je ne voulais pas laisser d'ambiguïté, d'autant plus que dans l'enquête, ils l'ont écrit très clairement qu'il n'y a pas de facteur géographique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire c'est plus la banlieue, plus les campagnes, plus la ville. C'est très homogène et les réponses sont assez homogènes. C'est peut-être d'ailleurs même ce qui est le plus inquiétant. Parce qu'en fait, finalement, on n'a pas de réponse simple. C'est-à-dire, on peut pas dire c'est l'isolement à la campagne, par exemple. Vous voyez, comme des fois on disait, bah non, en fait ça marche plus, tout simplement parce qu'on est dans un monde hyper connecté,
oui,
que tout le monde a accès à peu près à tout.
C'est en fait que tu sois au fin fond d'une campagne de la Creuse ou d'Alsace ou de Bretagne, ou que tu sois dans un hyper centre, si tu as des idées réactionnaires,
à peu près la même chose,
tu as absolument accès aux mêmes médias aujourd'hui et aux mêmes lieux, on va dire, de discussion. Alors, on peut ne pas aimer ça, mais ça s'est élargi en fait. Donc maintenant tout le monde peut se retrouver dans des espaces dédiés à la haine,
c'est
à
ça.
La misogynie, au racisme, etc. etc. quoi.
D'ailleurs, ils avaient tenté le coup sur je vous dirais bien que c'est CNews, d'envoyer des gens dans des banlieues après la truc cérémonie d'ouverture, pour faire réagir des gens, pour leur faire dire « Ah, c'était pas bien » et tout. Et ils sont tombés sur des gens qui étaient très contents d'avoir vu les nanas de Drag Race. Et du coup, ils n'ont pas diffusé. C'est Arrêt sur Image qui avait retrouvé des rushs où c'est marrant, où les gens disaient « Ouais, puisqu'il y avait machin et machine et machin. » Et donc, en fait, du coup, ça n'a pas donné ce qu'ils espérer. Comme quoi, les fantasmes. Voilà. Donc, en tout cas, les LGBTQIA+, ou pas, hein, d'ailleurs, hein, que vous le soyez ou pas, personne n'est parfait. Le vivre ensemble est un choix. La curiosité vaut mieux que la peur et l'entraide, c'est quand même la clé de tout ça. Alors, on le dit, on le redit, changer le monde, c'est aussi se changer soi. Et donc, en fait, il faut continuer à parfois s'interroger, se questionner, se demander si on n'a pas un petit fond réac, parce qu'on a tous des préjugés. Qu'on le veuille ou non, merci les Fatal Picard. Et
voilà,
ok,
voilà,
bah t'as qu'à balancer la musique parce que j'ai trop parlé. Et donc, comme Clara a décidé que ma chronique était terminée, je vais rester là et on va mettre.
J'en appelle à la censure. Je vais contacter l'ARCOM, Clara. Hein. Je veux dire que ça soit très clair. Tu nous as coupé, quoi. Oh là là, il va y avoir des suites à cette problématique.
Mais donc, tout ça pour dire que qu'on ne changera pas le monde sans changer soi-même et sans parler aux autres. Et que ça demande déjà de commencer à se parler et de s'interroger.
Oui, voilà. En fait, c'est vraiment ça. En fait, on en revient toujours à cette chose-là. Hein. Mais en tout cas, à la causerie, je crois qu'on est quand même beaucoup partisans de ça. C'est qu'il s'agit de dialogue, d'éducation. Alors, l'éducation, vous le mettez à quelle sauce vous voulez, mais c'est plus d'éducation populaire.
De curiosité, en fait.
Curiosité, ouais. Débattre, échanger. Et aussi, si quelqu'un vous dit qu'il a un problème avec les LGBT, bah en fait le refuser autant que si vous disiez qu'il a un problème avec les Noirs, les Arabes ou les Chinois en fait, ou les Asiatiques. Enfin, et en fait il faut plus rien laisser passer, il ne faut rien laisser passer. Donc enfin, mais c'est une aventure pour qui nous engage pour des années quoi, on le sait.
Et moi je rejoins Barbara Butch qui est une DJette et je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais elle a dit un truc très intéressant l'autre jour que je trouvais plutôt pertinent. C'est quand quelqu'un vous dit moi j'aime pas les PD, et ben demandez-lui pourquoi. Et vous verrez que finalement des fois ben c'est juste un réflexe. Et qu'une fois que vous lui demandez pourquoi, bah en fait, il ne sait pas pourquoi. Et qu'après, on peut engager un dialogue et dire bah, « Pourquoi tu m'as dit ça alors ?» Vous voyez, ça, en fait, c'est l'idée de dire bah, « Il faut parfois déconstruire, même si c'est chiant, même si franchement, on aimerait faire autre chose. Bah, » Des fois, ça vaut le coup quand même. Et surtout, vous qui n'êtes pas LGBT, posez la question, parce que c'est toujours un petit peu les LGBT qui s'y collent. Alliez, soyez-le jusqu'au bout. Et donc, dites « Mais pourquoi en fait ?» C'est quoi le problème? Et vous verrez que des fois, bah, c'est juste parce que papa ou maman disait ça, alors que du coup, on dit ça. Puis d'un coup, on se rend compte que finalement, bah non, ça va quoi.
Voilà. Ah bah, c'est préjugé.
Bah oui, ça se déconstruit. Ouais. Allez, musique maintenant, car tu peux y aller.
Dis plein tout cul, mais c'est toutes des menteuses. Des rappeurs sexistes choqués par des rappeuses. Est-ce que moi ça passera si je dis que je t'apprécie qu'à moitié nu en train de passer la tondeuse? T'as peur de moi? Comme Marine des migrants. J'oule le mur parce que tu pèses tes aliments. Ta table de nuit c'est un carton de déménagement depuis 10 ans. Je m'excuserai pas d'être bruyante. Je m'excuserai pas d'être brillante. Je préférerais qu'ils fassent semblant de pas nous voir comme la calvitie. Ils font semblant de pas nous croire comme féminicide. Ça devient gravissime. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. T'es trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai l'écran face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le califat. Mes rappeurs préférés sont tous accusés de viol. Du coup de qui je m'inspire, y'a de la cruauté dès la cour de l'école. Là où c'est censé nous instruire. Déjà trop vieille pour DiCaprio, mais j'ai pas la trentaine. Mais c'est quand même moi le problème. Soit la daronne, soit pucelle. Petite, j'avais peur d'appeler non qu'on pointait le soir. J'imaginais des monstres qui sortaient du placard. Maintenant j'ai peur du noir quand je rentre un peu tard. Mais c'est pas quand je croise une femme que je change de trottoir. Ah tu peux plus nous draguer? Dommage. Elles font chier les chiennes à rester sur leur garde. Et pourquoi tu crois qu'on mord et qu'on fait carnage? Et pourtant c'est pas nous les sauvages. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. De trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai les crocs face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le calice, la chaîne. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chère. Le tapis rouge, les reines, les impératrices, les doyennes. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chère. Nous sommes les lionnes, les reines, les fondatrices, le calice, les chiennes.
Et tu es bien au 102.2 sur RadioCanu.org et tu écoutes La Causerie. Et ça, c'est une super bonne idée. Et donc, du coup, tu viens d'entendre Morgane avec La Louve. Et Morgane, elle fait pas que des titres comme ça, elle en fait que des énervés.
Ok.
Et non, celui-là était calme.
Ah ouais.
Donc, voilà.
Moi, j'aime bien la...
Bah, moi aussi. L'énergie. Non, je dis ça en plaisantant. Elle fait, non, écoutez Morgane, c'est très bon. Elle fait plein de titres très engagés, comme vous avez pu le comprendre. C'est généralement très punch, c'est-à-dire ça met des baffes et ça fait du bien. Voilà. Oui. Et La Louve, je trouve ce titre magnifique. Voilà.
Effectivement. Est-ce que tu as quelques petits rendez-vous?
Alors, d'abord, une première info qui est importante. Vous savez que demain, le budget va être sûrement voté et il va sûrement passer en 49-3. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il n'y aura pas de vote. Voilà. Et puis, comme l'extrême droite est très contente de Barnier, elle ne votera pas de motion de censure. Et donc, le budget va passer. Voilà, parce que c'est l'idée. Oui, parce qu'on leur a promis une loi immigration contre le budget. Vous voyez, toujours. Voilà. Bref, tout ça pour dire que dans ce budget, il y a quand même quelque chose de très inquiétant, c'est qu'on a une dame qui s'appelle Rachida Dati, qui est ministre de la Culture, qui avait promis, juré, craché qu'elle ne s'attaquerait jamais au fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est en fait une aide de l'État qui est versée aux radios associatives, dont Radio Canu. C'est-à-dire, voilà, c'est une dotation de l'État. Finalement, juré, craché, elle n'y touche pas. Bah si, elle le baisse de 35%, 30 à 35% dans le budget qui va être voté. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important pour Canu, c'est qu'à Radio Canu, c'est 80% de notre budget, à peu près.
Non.
Ah bon, je reprends le texte qui était écrit par le bureau de Radio Canu. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu moins, mais, ouais, mais en tout cas, on a un budget en gros Radio Canu de 50 000 euros et on touche à peu près 38 000, 39 000 euros de FSER. Donc voilà. Tout ça pour vous expliquer que bah, ça va mettre en danger, ça peut mettre en danger Radio Canu et que c'est pas anodin. Alors, quel que soit le pourcentage, ça change rien, c'est que de toute façon, alors, je vous rappelle Radio Canu, radio autogérée, nous n'avons pas de salariés, donc ça, c'est, ça, fait, ça nous
pas
met.
Pas de publicité.
Pas de publicité, donc ça nous met un peu l'abri, mais nous n'avons donc du coup pas de partenariat.
Mais ce qu'il, faut, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la situation de Radio Canu dans, dans son fonctionnement et dans, dans le fait de ne pas avoir de salariés, ça représente une infime,
infime
minorité de radios associatives. On doit être 3-4 sur tout le territoire français.
On est parmi les dernières.
Alors, c'est pas du tout pour dénoncer les autres qui ont des salariés ou autres, mais c'est juste. Voilà, on est dans des situations qui sont encore un petit peu différentes, mais n'empêche que il faut savoir quand même que pour Radio Canu, le plus gros budget, c'est la diffusion. C'est-à-dire que pour que vous puissiez vous entendre sur vos ondes hertziennes, c'est un budget...
32 000 euros par an.
C'est ça. Juste pour ça.
On est transparent.
Et
hein.
Après, oui. Donc, et après, il y a l'électricité, etc., etc.
Ben oui.
Mais voilà, c'est ça la réalité du truc. Et que ben, nous, si on n'a pas cette
thune-là, si on perd 30% de FSER, ça va être compliqué pour Radio
Canu.
Ça va
être dur.
Alors, on trouvera sans doute des solutions, mais c'était pour vous alerter quand même que quand on vous dit que l'une des guerres menées par la droite et l'extrême droite et les réactionnaires, c'est une guerre idéologique qui veut faire taire
et
culturelle, qui veut faire taire tout ce qui les emmerde, n'oubliez quand même pas que sur les 750 radios associatives en France, la plupart sont classées comme des radios dites d'opinion, et la plupart sont pas classées à droite. Donc forcément, c'est étonnant. Mais c'est assez au FSER qu'on s'attaque, vous voyez. Alors, on voit bien la logique qui est derrière. On se dit, nous, à Canu, et je pense qu'on est plein à la causerie, pardon, que c'est sûrement que la première attaque et qu'on nous refera le coup l'année prochaine parce qu'il faudra de nouveau refaire des économies et qu'on rebaissera encore le FSER. Ça, c'est un avis de la causerie, pas de Radio Canu. Mais en tout cas, c'est l'inquiétude qu'on a. Et on voit bien qu'elle a dans les mains cette chère Rachida Dati, qui, je vous le rappelle, est une réactionnaire. Hein, parce qu'elle a beau être sympa et faire des punchlines, c'est une réac. Et ben en fait, elle a dans les mains en fait la possibilité de faire mourir tout un tas de radios, mais aussi demain sûrement tout un tas de lieux alternatifs où on fait de la du théâtre alternatif ou des choses comme ça. Et puis demain peut-être l'accès à la culture pour les plus pauvres, etc., etc., etc.
Il faut savoir que pour l'instant, Radio Canu c'est pas encore prononcé. Il devrait y avoir quelque chose qui devrait sortir, je pense, dans les semaines qui viennent. La démocratie directe, ça prend du temps.
Ouais,
hein.
C'est normal.
C'est pas justement, il faut aussi le comprendre pourquoi Canu ne réagit pas dans la minute. C'est parce que on appelle des choses qui s'appellent le consensus. Il faut que ça fonctionne et que ça plaise à tout le monde, que ça représente tout le monde dans l'écrit. Enfin bref, en tout cas, il y a déjà le SNRL, donc c'est le syndicat national des radios libres. Il y a aussi un autre syndicat dont j'ai perdu le nom,
CNRA.
CNRA, qui ont déjà sorti des communiqués et qui expliquent vraiment que ce qu'on peut craindre, c'est la mort de au moins, si ce n'est plus, 50% des radios associatives.
Ouais, c'est ça.
C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et il faut savoir quand même que dans la notion des médias, etc., les radios associatives, ça représente, je crois, même pas 10% de l'ensemble des choses culturelles. Donc on représente quasi rien, et pourtant on nous fait payer un prix qui risque d'être très fort et beaucoup trop fort pour nous, quoi.
Et très clairement, pour aller au bout quand même de la logique, c'est une logique de libéralisation, c'est-à-dire de privatisation de tout l'ensemble de la bande FM. C'est l'idée de tuer les radios associatives pour qu'elles deviennent toutes des radios commerciales, qu'elles fassent tout appel à la publicité, qu'elles soient toutes dépendantes en fait de grands groupes comme Bolloré par exemple, vous voyez, et que donc derrière en fait, la bande FM soit la plus aseptisée possible et surtout répondre aux besoins du capital. Donc en fait, il arrive un moment où il va falloir quand même qu'on se le dise, on est aujourd'hui face à une vraie attaque, et sans doute demain on sera amené, Radio Canu comme d'autres, à faire appel à nos auditrices et à nos auditeurs. Bah déjà, vous pouvez déjà commencer à écrire à vos députés, à vos tout ça, pour dire hey, on veut garder nos radios associatives, et puis demain peut-être qu'il faudra, je vous le dis, venir nous aider financièrement, potentiellement, pour qu'on continue à exister. Voilà, et c'est pas de fait, je sais pas de quoi sera fait demain, mais en tout cas, on avait envie d'en parler ce soir, parce que c'est pas anodin, et que ça nous paraît important que vous soyez au courant. Voilà.
Donc restez bien à l'écoute autour de cette info, et comme dit, on partage, c'est un communiqué qui sort de Canu, on le lira
bien
évidemment,
sûr.
Mais ça sera aussi à vous, auditeurs, auditrices, d'être des relais, de transférer ça, de transmettre ça, de partager ça autour de vous, et aussi, toute l'année, vous pouvez soutenir Canu avec un petit sticker, vous passez à la radio, on vous file des stickers, c'est aussi soutenir les radios, c'est aussi ça. Alors là, on parle de Radio Canu, évidemment, on y est, mais c'est comme ça pour toutes les radios associatives, quoi.
Okay. Faites vivre vos
radios. C'est hyper important sur le... Alors, Canu est un peu particulière quand même dans tout ça, mais les radios associatives, enfin, moi je l'écoute souvent quand je peux partir en vacances ou autre, quand j'ai la chance de pouvoir partir, etc. Dans des radios associatives, dans des territoires vraiment, on peut appeler, on va dire, hors des grands centres-villes, des grandes métropoles, etc. C'est un lien local absolument, mais indispensable. C'est un vrai créateur de liens. C'est vraiment quelque chose qui donne une vie dans le local, enfin, localement. Et c'est, enfin, encore une fois, tous ces gens politicards qui veulent le bien de tout le monde, ben c'est quand même marrant, mais leurs actes démontrent qu'ils veulent pas vraiment beaucoup de bien de tout le monde. Ils veulent surtout avoir un monopole, celui du fric, et que ça, il faut absolument à un moment donné aussi se l'avouer et les porter, et donc rester à l'écoute autour de cette problématique-là. Pardon, je te laisse continuer dans les brèves.
Non, mais pas de souci, ben on va passer aux brèves. Donc sur Lyon, mardi 22 octobre, vous avez un appel autour de l'hébergement d'urgence des milliers de personnes à la rue à Lyon. Où est passé le droit à l'hébergement? Donc c'est mardi 22 octobre à 18h30 à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griffe dans le 7e. L'idée, bah, c'est de venir vous renseigner, notamment avec Lyon Info Migration et d'autres qui vont pouvoir vous expliquer peut-être déjà comment vous pouvez aider et puis surtout comment on peut faire pression pour que le droit à l'hébergement soit enfin respecté. Je vous rappelle que c'est un droit inscrit, hein, donc théoriquement il devrait l'être. J'ai bien dit théoriquement.
Oui.
Voilà. Sinon, pour un petit peu plus tard, pardon, j'ai perdu ma deuxième info. Pourquoi je l'ai perdue, je sais pas. Bon, je l'ai perdue. Bah, vous m'en voudrez okay. pas.
Bah, j'ai paumé la deuxième. Les infos, vous les trouvez majoritairement sur Rebellion ou des choses comme ça.
Voilà.
Voilà.
Mais j'ai perdu ma deuxième info. Je suis désolé.
C'est pas grave,
voilà.
On t'en veut pas.
Essayez de les voir.
Oui. Et avant de se quitter, évidemment, en musique, on vous rappelle quand même vite fait les moyens de rester en contact avec nous, ou en tout cas de rentrer en contact avec nous. Vous pouvez nous envoyer un mail à lacauseriecanu@gmail.com. Cette émission, vous la retrouverez comme les 535 précédentes sur le blog de l'émission. C'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Évidemment, dans votre moteur de recherche, vous tapez La Causerie Radio Canu, on y sera. Et puis, vous retrouvez aussi La Causerie sur les différentes plateformes d'écoute musicale, de balado-diffusion, de podcast, etc. Encore une fois, La Causerie Radio Canu avec notre petit visuel, une radio et des petites mains qui ont la gueule ouverte, et c'est nous. Donc vous pouvez, pareil, vous abonner.
Des ailes de chauve-souris.
Et vous aurez toujours les infos sur les nouvelles émissions qui arrivent. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. On vous donne rendez-vous dimanche prochain sur l'antenne de Radio Canu.
Oui.
On va se quitter en musique avec... Ah oui, c'est moi qui l'annonce. On va se quitter en musique donc avec Las Cafeteras et le titre c'est It's Movement Time. Nous on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. Portez-vous bien.
Si vous êtes sage. Et désolé pour la semaine dernière.
Ouais,
parce qu'il y a eu un petit contretemps.
C'est
voilà.
Ça.
À la semaine prochaine.
Des bisous, ciao.
Des bisous, salut.
Ciao.
Bugs got it all wrong, so I come to you with a song. In 1810, con el gran grito de pasión, se levantaron con razón. Black and brown fighting together on a day I'll always remember. En el 5 de mayo, con el grito de gallo, black, white and brown bleeding together on a day I'll always remember. Cause really, it hasn't been that long, so just in case Cat Williams had you guessing, let me kick y'all down with a little history lesson. In the 19th century, while the US promoted degradation, annihilation with its military and US Navy, Mexico got rid of the caste system, voted for its first indigenous president, even getting rid of legalized slavery. The Underground Railroad also ran south, led black folks to freedom with Mexico right there to receive them. In 1910, it was Mexican men with Pancho Villa and Zapata fighting for tierra, libertad y techo, with Adelitas on the front line with bullets across their pecho. In the year 1946, it was the Mendez family that fought against segregation in schools. Because before that, they treated us like fools, pushing us out into gangs, wars, and drugs. And then they get pissed off at us when we become Crips and Bloods, traviesos, zoot suiters,
pachucos, folkloristas, punks, bomberas, haraneras in the heat, haraneras with the bomb ass beats, talking about what's really going on in the streets. In the 60s, in the streets of Oakland, California, Black Panthers organized for answers. Young lords in New York fought against wars. The Stonewall Rebellion remained true for the rights of the LGBTQ. AIM, who was down for native rights with no shame in their game. Brown Berets in LA learning how to fight and doing what's right. In the Campos of California, Filipinos were the first ones to lay down the boycott, screaming in solidarity, Isang Baksak, one rise, one fall, you come for one, you come for all. And today, Arizona and Alabama, they don't play, carving out racist laws like it's made out of clay. I stand with Emmett, Trayvon, Oscar, and Bell, with my mentor, Maria, up in the cell, telling you I'd rather be blind than to stay quiet on a day where my people are hunt down like prey. My ability to breathe is directly connected to my ability to see. It's not about me, never was, never will be. It's about we. It's time to move, y'all.
My people.
It's movement time.